Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine Rocchini, Clément Salazar, Juliette Gadeau, réalisée par Charlotte Roux et mise en onde ce matin par Nicolas Delmas. Toute cette semaine, on s'intéresse donc à la piraterie, du braquage en mer, au vol de données en ligne, en passant par les parties pirates. Mais aujourd'hui, direction la Russie, une Russie pointée du doigt pour avoir favorisé la campagne de Donald Trump à travers des campagnes de désinformation sur Internet, mais aussi des actes de piratage plus directs avec le vol et la publication par le site Wikileaks de milliers de courriels de responsables démocrates brouillant le message de la candidate démocrate Hillary Clinton, pesant ainsi sur le débat politique et interférant donc de facto dans le processus électoral. Quand la Russie trolls les démocraties, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Les Russes sont responsables de la cyberattaque contre les données du Parti démocrate. Ce devrait être une question qui concerne tous les partis et pas un seul parti. J'espère que le président élu prendra autant les choses en main pour s'assurer que nous n'aurons pas d'influence extérieure dans nos futures élections. Je pense qu'aucun Américain ne veut de cela.
J'ai été frappé quand j'ai vu cette nouvelle à la télévision. Je n'ai rien à ajouter. Je pense que c'est stupide et futile.
Je ne crois pas que l'on puisse être sûr que la Russie est derrière cette cyberattaque. Peut-être que c'est la Russie, mais ça pourrait être la Chine ou n'importe quelle autre personne.
Trois voix, celle de Barack Obama d'abord, pointant du doigt le régime russe qu'il accuse d'avoir cherché à interférer dans l'élection présidentielle. Sergueï Lavrov ensuite, choqué par l'éviction de 35 diplomates russes littéralement expulsés du sol américain. Et puis Donald Trump, enfin, lui, circonspect quant aux responsabilités russes. Le 7 octobre dernier, un document signé par le FBI, la CIA et la NSA affirmait que la Russie avait commandité et exécuté des piratages avec, je cite, « un grand degré de certitude ». Après le Parti démocrate aux États-Unis, c'est au tour du Bundestag, le Parlement allemand, d'être de faire l'objet d'une attaque dont l'ampleur et le but laissent penser qu'il s'agit peut-être d'une attaque un peu dans la même nature que celle dirigée du côté des États-Unis. Les élections fédérales se déroulant à l'automne, les autorités se préparent à de prochaines offensives visant à favoriser le parti anti-migrant, l'AFD, dans le jeu électoral. Alors que dire de ces tentatives de déstabilisation politique venues de la Russie ? Est-ce que Moscou a trouvé dans cette nouvelle stratégie un nouveau moyen pour peser sur le destin du monde et sur les démocraties occidentales? On ira voir comment la Russie s'est constituée un appareil offensif solide sur le plan numérique pour se demander également à quand remonte cette tradition du hacking en Russie. Et puis enfin, malgré les cris d'orfraie, la Russie est-elle réellement devenue l'ennemi public numéro un en matière de cyberguerre? Longtemps, on a beaucoup parlé de la Chine. On reviendra notamment sur la Chine et sur ce qu'elle représente en termes de cybermenaces. Pour évoquer tous ces sujets, on a avec nous deux invités. D'abord, Nicolas Arpagian, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes coordonnateur d'enseignement à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, où vous dirigez le cycle Sécurité numérique, auteur de plusieurs ouvrages, le Que sais-je, la cybersécurité paru Opus, mais aussi la cyberguerre. À vos côtés, Julien Ossetti, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous, chercheur à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous êtes un spécialiste de l'interaction entre politique étrangère et gouvernance de l'Internet. C'est évidemment des sujets qui vont nous intéresser de très près ce matin. D'abord, je voudrais vous entendre une réaction sur ce qui constitue évidemment l'actualité, quand on voit Barack Obama, donc le président américain, qui décide de renvoyer 35 diplomates russes en réaction aux cyberagissements réels ou supposés, d'ailleurs, on va y revenir, hein, de la Russie. C'est une réaction assez étonnante, d'abord parce que Obama nous avait habitués, disons, à plus de retenue, mais aussi, bien sûr, parce qu'il va partir. Comment est-ce que vous comprenez cette réaction? Et puis aussi, on ira du côté de la contre-réaction, j'allais dire, du côté du Kremlin, qui, elle, est beaucoup plus modeste, mesuré, puisque Vladimir Poutine, a décidé de ne rien faire. Alors, Julien Ossetti, sur cette histoire de diplomate expulsé.
Alors bien sûr, déjà le positionnement d'Obama est assez complexe, puisqu'en fait, au fond, il veut d'une part prouver que son bilan politique étrangère n'est pas si catastrophique que ça. Il a été beaucoup critiqué, notamment au Moyen-Orient, et en matière de cyber, de numérique et de relations à la Russie, il a été allègrement critiqué également sur sa mollesse supposée. Donc du coup, il veut, au terme de son mandat, prouver qu'il n'est pas si faible et indécis que cela, et agir avec détermination. Ce qu'il a fait tardivement, d'ailleurs, dans le dossier de l'élection population américaine.
Et alors le geste du Kremlin, parce que dans un premier temps, le ministre des Affaires étrangères russe qu'on entendait, Sergueï Lavrov, a affirmé qu'il y allait y avoir une réaction. On s'attendait à ce que peut-être justement des diplomates américains soient expulsés à leur tour du sol russe. Or, il n'en a rien été. Pourquoi ? Il se dit que finalement Donald Trump arrive très bientôt et que c'est inutile justement de renvoyer des diplomates.
Alors, en fait, au Kremlin, on est dans une relation à l'administration de Trump qui va se mettre en place très prochainement, et Obama fait partie du passé. Voilà, très clairement, dans la vision du Kremlin, c'est cette optique qui joue.
Nicolas Arpajian, une réaction sur cette histoire de renvoi de diplomates, et puis ensuite
Elle est surprenante dans la forme, c'est-à-dire qu'on revient en fait à une forme très guerre froide. On se rappelle, si on prend l'exemple de la France, lorsqu'au printemps 1983, François Mitterrand ordonne l'expulsion de diplomates soviétiques, on est dans des images qu'on pourrait tout à fait revisionner aujourd'hui, c'est-à-dire des autobus et après un avion qui décolle vers Moscou. Simplement, ce qui est vrai, c'est que ce qui est étonnant, c'est le calendrier d'un président qui fait une dernière conférence de presse en disant, en balayant presque de la main, c'est même physique dans sa prise de parole, en disant la Russie est un petit pays qui n'exporte rien, qui ne fait pas envie. Enfin, ça, c'est des qualificatifs qu'on n'imagine pas du tout dans la bouche d'un président d'une grande puissance, et en plus dans un contexte géopolitique où la Russie, que ce soit vis-à-vis de la Chine, que ce soit vis-à-vis de la Syrie, que ce soit peut-être demain vis-à-vis de la France, se trouve plutôt en position de durée et de leadership. La deuxième chose, c'est que effectivement, on voit bien qu'on répond, et ça commence à formaliser la réponse physique à des attaques numériques. C'est vrai que jusqu'à présent, il y avait un discours politique pour dire nous autorisons à riposter de manière conventionnelle. Alors, dans le langage des militaires, le langage conventionnel, d'habitude, ce sont les armes, des armes physiques, l'engagement de personnel sur un théâtre d'opération. Là, on commence à dire, voyez, on riposte. Au-delà de la déclaration solennelle, incantatoire, on est dans une riposte. Par contre, on se doute bien que ça ne résout absolument pas le problème. On se rappelle d'un cartoon publié dans un journal américain où on voit les diplomates monter dans l'avion qui disent, mais tu n'as pas pris de valise ? Non, je suis de retour dans 15 jours. Effectivement, on voit que c'est symbolique, mais ce n'est que symbolique, puisque la vie continue à partir du 21 janvier.
Ouais, puis on pourra regarder ce qu'il pourrait y avoir derrière la riposte physique, parce qu'il pourrait peut-être y avoir des choses. Mais revenons sur cette attaque. Donc le 7 octobre dernier, je le disais dans mon introduction, on a ce document signé du FBI, de la CIA, de la NSA, qui affirme qu'il y a un grand degré de certitude s'agissant de cette Russie qui aurait commandité, qui aurait exécuté le piratage qui a visé le Parti démocrate américain. Il faut le rappeler avec ces révélations des courriels du directeur de campagne, notamment avec cette candidate à l'élection, Hillary Clinton, qui a bénéficié, c'est ce qu'on apprend dans un des courriels, bénéficié des questions de journalistes à l'avance lors du débat. Jeudi dernier, on a donc le directeur du renseignement américain, James Clapper, qui est auditionné par une commission sénatoriale. Il répète qu'il est convaincu que le régime russe a eu un rôle dans ces attaques. Évidemment, depuis le début, la Russie nie tout ça en bloc. Qu'est-ce qu'il faut penser ? Est-ce que le Kremlin a cherché à influencer cette élection américaine ? Est-ce que la démocratie américaine a été attaquée ? Julien Ossetti.
Alors, la démocratie américaine, plus largement l'Occident, c'est vrai que les autorités russes ont développé un appareil à la fois cyber et d'influence. Donc tout ce qui est la propagande, la subversion, qui est assez sophistiqué, assez construit et très cohérent depuis une dizaine d'années. Ça remonte à l'Estonie, à la Géorgie en 2007, en 2008, qui a été restructuré, refinancé depuis 2012-2013, et qui est aujourd'hui dans un contexte de très forte tension avec les pays occidentaux, l'Europe, États-Unis en particulier, joue à plein en faveur des objectifs de politique étrangère du Kremlin. Donc ça, c'est il y a une quête de la part de la Russie d'un avantage asymétrique dans le cyberespace.
Nicolas Arpajian, ce qu'a dit James Clapper durant son audition, je le cite, nous n'avions jamais vu une campagne aussi directe pour interférer dans le processus électoral. Bien sûr, c'est pas la première fois qu'un pays tente de peser sur une élection, c'est quelque chose qu'on voit. Mais est-ce que là, il y a un palier qui a été franchi dans l'ingérence de la Russie dans les affaires américaines ?
En fait, on est dans la continuité de ce que l'Union soviétique faisait, qui était de passer par des relais d'opinion de manière à faire passer des avis, des positions favorables avec des financements de relais. Simplement, ce que permet le numérique, c'est le fait que ça se fasse en direct. C'est-à-dire que là où avant, il fallait trouver ce qu'on appelait les idiots utiles, c'est-à-dire des gens qui étaient les porteurs du message message pro-soviétique, bah là, effectivement, l'avantage du numérique, c'est qu'on peut le faire de manière diffuse.
Et que les idiots utiles peuvent être américains.
Ils peuvent être, et c'est surtout que, en tout cas, l'utilisation se fait de manière justement diffuse par des mises à disposition d'informations bien rédigées par ce qu'on a appelé les trolls, c'est-à-dire ces gens qui ont juste vocation à nourrir, à alimenter le débat public en étant accessibles via les plateformes sociales. Et donc, on n'a plus besoin de recruter des porte-parole ayant un nom, prénom et ayant une identité sociale.
Oui, et puis par ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est que si ça fonctionne, c'est aussi que l'opinion américaine, en l'occurrence, était réceptive.
Absolument. C'est pour ça que, d'ailleurs, Obama a une responsabilité dans le terrain qui laisse d'éclosion et de propagation des idées qui, lorsqu'on évoque le fait que les soutiens d'Hillary Clinton participent à un réseau pédophile qui se réunissent dans un restaurant aux États-Unis et que l'information circule tant et si bien qu'un jeune homme, à un moment, prend un fusil et veut faire justice lui-même en se rendant dans ce restaurant, il y a bien un moment quelqu'un qui a été crédible. Alors, c'est vrai que c'est là où on est dans cette société de l'information, où il y a eu une défiance à l'encontre des canaux j'allais dire officiels, ou en tout cas institutionnels, et une certaine partie de l'opinion qui commence à s'alimenter elle-même en se nourrissant, et grâce aux réseaux sociaux qui ont une logique affinitaire, en clair, les gens qui partagent les mêmes points de vue peuvent rester entre eux à prospérer et à s'auto-convaincre. C'est vrai qu'effectivement, la Russie, ou en tout cas aujourd'hui, il y a un véritable terrain d'épanouissement pour des gens qui veulent diffuser des nouvelles, en se gardant bien de passer par les médias, j'allais dire, historiques, qui pourraient relativiser, mettre en perspective, voire contredire ces affirmations.
Je vais revenir dans un instant avec vous. Vous voulez réagir, Julien Neusetti?
Plus largement, ce que dit Nicolas, si vous voulez, à Moscou, les dirigeants ont parfaitement compris que le numérique, c'est un outil qui démultiplie à une échelle inédite les potentialités de subversion, de déstabilisation des États. Ça, c'est quelque chose qu'au Kremlin, on a parfaitement saisi, d'où un discours aussi très construit vis-à-vis d'Internet.
On verra justement depuis quand est-ce qu'on a compris tout ça. On y reviendra tout à l'heure. Nicolas Arpagian, avant d'en venir avec Julien Neusetti à l'arrivée de Donald Trump, il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre, parce qu'on sait qu'il y a une très large partie, évidemment, des votes aux États-Unis qui sont des votes électroniques. Il y a deux chercheurs de l'Université du Michigan, Alex Alderman, je les cite, et Matt Bernard, qui sont des spécialistes du vote électronique, qui ont réalisé tout un travail sur les votes de la présidentielle pour savoir s'ils avaient été ou non truqués, et leur conclusion semble être qu'ils ne l'ont pas été truqués. Ça veut dire que les machines à voter sont parfaitement sûrs ?
Non, certainement pas, et je ne défendrai pas les machines à voter, parce que, en fait, l'idée, c'est que ça n'a pas été la cible, puisqu'on a apparemment, dans ce cas-là, été davantage dans une attaque informationnelle. Il faut toujours garder à l'esprit que dans la cyberattaque, il y a deux possibles composantes. La première qui est technique, on attaque le tuyau, on rentre dans le système informatique du Parti démocrate, on extrait des messages qui ont vocation à rester confidentiels, on les rend publics, et on espère qu'ils viennent infecter, qu'ils vont jouer un rôle sur le débat public. L'autre option, c'est de jouer sur de l'information qui est fausse partiellement ou totalement et de manière à polluer l'ensemble de la là encore du débat et de la perception que les gens ont de la réalité. Par contre, et c'est vrai d'ailleurs, la question de l'intégrité du vote n'a pas été contestée. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant dans cette affaire, c'est que on a des démocrates qui vous disent l'élection a été affectée et on pourrait en toute logique continuer la réflexion en disant bon bah très bien, rejouons l'élection, faisons
ce
en sorte de
contester.
Et personne en fait ne va jusque là. Donc on est dans un entre-deux qui est quand même assez surprenant, qui est oui, ça a eu un rôle sans précédent, mais non pas au point qu'on puisse contester la validité même de l'élection de Donald Trump.
Alors Julien Neusetti, Donald Trump affirme qu'il ne croit pas que le régime russe a orchestré ces attaques. On se dit, et vous nous l'avez dit tout à l'heure, que son arrivée va changer beaucoup de choses, et d'ailleurs Poutine n'attend que ça, c'est la raison pour laquelle, disiez-vous, il n'a pas à son tour renvoyé de diplomates. Et en même temps, on apprend là, ces dernières heures, que le chef des renseignements va être remplacé. Ça va être Dan Coats. Alors, faut quand même dire un tout petit mot sur cet homme-là, parce que c'est un ancien sénateur, partisan des sanctions à l'égard de Moscou. C'est un homme qui avait même été interdit de territoire en Russie. Et voilà qu'il va se retrouver propulsé à la tête des renseignements. Alors là, il y a quelque chose dans le jeu politique de Donald Trump qu'il faut que vous nous expliquiez.
Alors son jeu politique est pour l'heure assez illisible, d'autant que pour faire suite à ce que vous disiez sur son positionnement sur l'évaluation du renseignement américain, son futur chef de cabinet, Reince Priebus, a justement lui admis que Trump admettait les conclusions du rapport qui a été publié vendredi dernier.
C'est pas ce qu'il dit officiellement.
Voilà. Ouais. Donc il y a un mouvement pour l'heure de Trump qui est absolument contradictoire et pour être honnête assez inquiétant vis-à-vis de Moscou. Il y a un positionnement très très flou jusqu'à présent et qui joue à mon sens en faveur du Kremlin.
Mais il joue double jeu ou peut-être qu'il joue double jeu Trump. C'est peut-être très habile en fait ce qu'il fait.
C'est peut-être très habile, ça on verra ça avec le temps. Mais avant sa prise de fonction, c'est un peu délicat de jauger
son jeu. Nicolas Arpagian.
Alors, en fait, il faut aussi garder la diplomatie de Twitter par Donald Trump. C'est garder à l'esprit qu'entre ce qu'annoncent les collaborateurs du président élu, et c'est surtout, on prenait l'exemple de la Corée du Sud qui a désigné un diplomate à temps plein pour suivre le compte Twitter de Donald Trump, parce qu'à un moment, on s'aperçoit aussi que c'est un canal, un vecteur. C'est vrai que jusqu'à présent, si on devait faire un dosage, une qualification des messages émis directement par le président élu, manifestement, il a l'air plutôt dubitatif quant à au travail de la communauté du renseignement. Alors le problème là-dessus, c'est qu'il va falloir effectivement, et vous avez vu en fin de semaine dernière, cette première rencontre avec les dirigeants de la communauté du renseignement, Donald Trump est quelqu'un du monde de l'entreprise. Il n'a pas été familier de cet univers que connaît bien Hillary Clinton, qui est celui des dirigeants de services de renseignement, de cette communication d'informations extrêmement sensible dans un contexte tout à fait classifié. En fait, il fait son apprentissage. Donc c'est vrai que là, il y a forcément... Et puis en plus, il a l'avantage dans le cas du spoil system. En plus, il y a le départ à la retraite atteint par la limite d'âge de dirigeant de service de renseignement. La question va être effectivement, est-ce qu'il va recruter des gens qui sont sur son moule, en tout cas qui sont dans sa communauté de pensée. Là, le renseignement va avoir besoin de retrouver une espèce de confiance ou de relation, j'allais dire, une oreille à la Maison Blanche. C'est une vraie question en ce qui concerne l'information du dirigeant de la première puissance militaire du monde.
Tout à l'heure, vous nous parliez de riposte physique à propos du renvoi de ces diplomates russes. Est-ce qu'il pourrait y avoir une riposte, une cyber contre-attaque de Washington à l'égard de Moscou, et à quoi ça pourrait ressembler ?
Alors, il s'avère que la question s'est posée, puisque il y a des attaques qui avaient été... d'ailleurs, Barack Obama a dit dans sa riposte, il a dit, il y aura des attaques sur lesquelles nous communiquerons et d'autres sur lesquelles nous conserverons le secret, mais dont vous pourrez éventuellement voir les effets. Le problème là-dedans, c'est que on est dans une écriture nouvelle de ce droit des conflits armés. On est en train de voir... Avant, on avait bâti, et il a fallu des conventions de Genève, il a fallu tout un... des décennies, voire des siècles, à l'homme qui pourtant se bat depuis Caïn et Abel, enfin globalement depuis qu'il est trois sur Terre, l'idée étant de se dire qu'il va falloir organiser ça. La notion de riposte et la notion de proportionnalité est en fait au cœur du débat. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui équivaut à une attaque numérique, dès lors en plus qu'il s'agit d'attaques informationnelles ? Il n'y a pas mort d'homme, si on reprend l'expression. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est diffus, qui est impalpable, qui est du domaine de l'indicible. Et donc, dès lors qu'on revient dans du conventionnel, donc on va toucher des infrastructures, on va toucher des éléments matériels. Pour l'instant, chacun dessine sa carte de l'équivalence. C'est-à-dire, après tout, que vaut une attaque numérique et comment est-ce que j'y riposte ? Très sincèrement, pour l'instant, c'est une partition qui reste à écrire. On n'a pas vraiment d'éléments. La seule chose, c'est que pour l'instant, des attaques, on a évoqué le système d'alimentation électrique russe, on a évoqué éventuellement des infrastructures. Alors on l'a vu dans le cas iranien.
Vous parlez du réseau électrique. En fait, il y a certains détails d'un éventuel plan de cyber contre-attaque qui a fuité dans la presse et ça fait partie. C'est un des éléments.
De manière à créer un préjudice auprès des Russes.
Julien, j'ajoute à cela le risque d'escalade qui est encore difficilement maîtrisable et qu'on a beaucoup de mal à appréhender aujourd'hui dans le cyberespace. Et ça, les Américains s'en rendent compte et dans leur rapport aux capacités cyber à la fois des Russes et des Chinois, par exemple, ils savent très bien que faire le premier pas les exposerait à une escalade et qui serait extrêmement, extrêmement risquée.
C'est la seule analogie avec le nucléaire.
Au lendemain des élections américaines et des interrogations quant au rôle de la Russie dans la victoire de Donald Trump, quand la Russie troll les démocraties, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde avec Julien Nocetti et Nicolas Arpagian.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On peut télécharger toute la base, avec leur nom, leur prénom, leur date de retour de l'armée et leur région d'origine. La voici. Je crois que le prix, ça serait entre 1 et 2 millions de dollars. C'est secret, donc c'est plutôt cher. Parce que, par exemple, je pourrais craquer leur mail, obtenir des informations militaires et confidentielles, ou les vendre à des vrais criminels.
Voilà, extrait d'un reportage, Cybercriminalité, Hacker Anonymous, qui avait été diffusé en 2014. Julien Nocetti, si je vous dis Fancy Beer, APT28, Sednit, Poundstorm, Strontium, plusieurs noms, qui sont donnés par des entreprises de cybersécurité, par des éditeurs de logiciels, pour un seul groupe, celui qui serait peut-être derrière les attaques dont on parle, notamment donc celle du Comité National Démocrate. Qu'est-ce qu'on sait de ce groupe? Est-ce qu'on a une idée des individus qui sont derrière toutes ces dénominations? Quel genre d'individus? Quel lien aussi peut-être avec les renseignements russes?
Alors, on a coutume de distinguer deux groupes hein, qui ont justement percé dans les médias, APT28 et APT29. Donc l'un serait lié au renseignement militaire russe, le GRU, et l'autre au FSB, donc le contre-espionnage russe. En sachant que c'est davantage le GRU, dans les rapports publiés par les Américains, qui aurait fait preuve de plus d'initiative et d'agressivité vis-à-vis des États-Unis. Voilà, donc ces groupes ont développé leur propre capacité en matière cyber. Ça fait suite à un effort soutenu tant en matière financière que qu'humaine depuis. Attends,
justement, ça, vous parlez de capacité, ça c'est important. De quel genre de capacité humaine, matérielle, financière est-ce que doit disposer un tel groupe pour opérer comme ils le font?
De capacité assez conséquente à mon sens, puisque de telles attaques, si elles sont avérées évidemment, nécessitent beaucoup de temps de préparation. Ça ne s'improvise pas. Il faut une logistique assez importante, des moyens humains aussi conséquents.
Beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent également. Donc, il dépend voilà du ministère de la Défense russe. Le GRU dépend du ministère de la Défense russe. Donc c'est absolument pas étonnant à cet égard. Mais les principes.
Donc il faut un moment avoir des moyens et les centraliser.
Les centraliser, ouais. C'est l'objectif d'ailleurs du Kremlin depuis quelques années de créer un équivalent du Cyber Command américain. Ce qui a plus ou moins été fait en fait en Russie, puisqu'il y a des rivalités encore extrêmement extrêmement vivaces aujourd'hui entre les différents services de renseignement.
Encore un tout petit mot et je vous passe la parole, Nicolas Arpajian. Est-ce qu'on a une idée d'où vient la menace géographiquement? On sait que c'est très très difficile de retracer justement ces attaques, mais alors regardons les choses dans l'autre sens. Si on s'intéresse aux individus, aux hackers russes, est-ce que on sait où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on sait où ils sont particulièrement concentrés? Peut-être que l'histoire de la Russie nous donne quelques indications en la matière.
Absolument, absolument. La Russie, il y a toujours eu un vivier d'informaticiens, de mathématiciens, de programmeurs, développeurs très très importants en Russie. Il y a un essor du hacking qui s'est opéré au tournant du 21e siècle, vers 98-99, après la crise financière qui a durement touché la Russie. Donc tous ces gens se sont retrouvés au chômage et ont trouvé de nouveaux débouchés soit dans le hacking ou soit directement dans les services de renseignement. Ou soit dans des cybermafias.
Et quand l'économie russe s'est portée un petit peu mieux, quand l'argent est arrivé, notamment l'argent du gaz et du pétrole, on a pu donc récupérer tout ce potentiel humain et toute cette connaissance.
Tout ce potentiel non, puisqu'une partie a émigré, ouais, notamment ouais. En Israël, aux États-Unis, mais une bonne partie est restée sur place et soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg notamment, ainsi qu'en Sibérie. Je pense notamment à ce grand pôle technologique à côté de Novosibirsk qui s'appelle Akadem Gorodok, qui était un peu la Silicon Valley à l'époque soviétique et qui regroupe un vivier très important de hackers, de programmeurs.
Mais il y a eu une campagne de recrutement, c'est ça que je veux dire?
Alors, officiellement, oui, depuis 2012-2013, ouais. Quand le nouveau ministre de la Défense, Shoigu, a pris ses fonctions. Il s'est intéressé de très très près à ces questions cyber et a lancé un vaste effort de recrutement.
Shoigu, c'est... Redites-nous.
C'est le ministre de la Défense.
Voilà, c'est ça, le ministre de la Défense. Nicolas Arpajian.
En fait, ce qui est assez logique, ces dates correspondent également à la mise en place dans un certain nombre de pays, et de grands pays, et de la France en fait partie, de la prise de conscience et de l'effort d'investissement. Il s'avère qu'il y a une tradition, une école mathématique en Russie. Il y a effectivement quand même une culture propre à Vladimir Poutine.
Il y a une école de mathématiques en France. Il n'y a pas cette culture du hacking en France.
Par contre, c'est un élément de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on a investi, on a renforcé les moyens du ministère de la Défense dans le domaine de la sécurité numérique. Alors après, c'est les usages et la finalité. Et la mission que vous donnez à ces personnels, mais il n'empêche que ça a été, depuis le livre blanc de 2008 sur la défense et de la sécurité nationale, ça a été exprimé clairement. Ce qui est certain, c'est que effectivement la Russie a aussi un moyen de se dire, après tout, je peux, en restant à partir de mon territoire, jouer la carte de l'influence et de manière à redevenir une puissance, en tout cas sur la scène internationale, mais à partir de mon territoire. C'est-à-dire que on est d'ailleurs, c'est un parallèle que l'on retrouve avec la Chine, où on n'est pas obligé à chaque fois d'être dans une logique irrédentiste ou dans une logique où on déplace des personnels, on est dans une logique d'occupation physique d'un territoire géographique, mais on peut disposer d'une influence à partir de ses propres frontières. Donc ça, c'est un élément qui est, dans la géopolitique et la recomposition des leaderships, un élément important.
Est-ce que vous pensez que on pourrait, la Russie pourrait avoir à faire face à un acteur de la surveillance, un acteur de ces cyberattaques qui se retournerait contre son propre service pour dénoncer les actions de la Russie en la matière? Est-ce que Moscou pourrait avoir son Snowden qui aurait trouvé refuge aux États-Unis et qui révélerait les agissements de la Russie?
Ça, alors ça, c'est une démarche humaine, donc elle est tout à fait inconcevable, envisageable. La seule chose, et là vous avez raison de pointer cette démarche-là, c'est que en fait, il s'avère que jusqu'à présent, les éléments de preuve incontestables, puisque vous parliez des rapports de la NSA, du FBI, du DHS, l'équivalent à peu près du ministère de l'Intérieur états-unien, c'est que pour l'instant, on a des faisceaux de preuves, des éléments cumulés mais disparates qui inclinent à penser que bon.
Mais il manque le témoin oculaire.
Voilà, il manque voilà, et il manque le Edward Snowden, il manque le Bradley Manning, ouais, c'est-à-dire quelqu'un, ouais, qui à un moment fait un pas de côté de l'instance dans à laquelle il collabore et qui apporte les documents. Il n'y a pas d'objection physiologique à ce qu'un Russe le fasse. La seule chose, pour l'instant, à ce jour, ce n'est pas intervenu. Effectivement, on est encore dans, justement, c'est pour ça qu'on reste dans l'accusation théorique et pas encore dans la détermination de preuves formelles.
Julien Nocetti, ça vous paraît possible?
Il n'y a certes pas eu encore de Snowden russe. Par contre, je pense au cas des deux lanceurs d'alerte russes qui étaient membres du comité de l'agence antidopage de la Russie et qui a révélé le cas de tout ce dopage d'État mis en place en Russie à l'été et à l'automne dernier. Donc ça, c'est et qui sont réfugiés aux États-Unis. Donc ça, c'est pas anodin et ça pourrait donner lieu à d'autres types de lanceurs d'alerte dans différents secteurs.
Si on regarde maintenant du côté des États-Unis, Nicolas Arpajian, est-ce qu'il y a, bien sûr qu'il y en a, mais je voudrais que vous nous les détailliez peut-être, les mesures, les dispositifs les plus importants qui ont été décidés par l'administration américaine pour précisément se protéger de ce genre de cyberattaque? On a mis des équipes dédiées, des moyens sur la table.
Alors oui, il y a beaucoup d'investissements. Certains disent presque trop, puisqu'on parle de 17 agences ayant aux États-Unis un bras, un volet, une dimension numérique. Ça a d'ailleurs été à un moment un élément de chicanerie, enfin de bataille, puisque à un moment, par exemple, prenez l'exemple de la US Air Force, a été une des premières armées à investir le champ de la cyber. Quand le président Obama dit, tiens, il faudrait peut-être commencer à se renforcer dans ce domaine, l'US Air Force a dit, bah voilà, donnez-moi le leadership. Il a été créé un cyber common, un état-major dédié. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est plus dans un empilement de dispositifs. Simplement, il faut garder à l'esprit que les États-Unis ont un avantage concurrentiel dans ce domaine, c'est qu'ils ont la possibilité, même s'ils s'en défendent, de faire appel à un pan conséquent du numérique qui s'appelle les GAFA. Ils s'appellent Google, Amazon, Facebook, pour lesquels la loi américaine impose une collaboration au nom de la sécurité nationale. Et l'expérience, et là on revient
sur... Même s'ils se défendent très bien, les GAFA,
Elles se défendent très bien parce qu'elles ont un modèle économique à maintenir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans notre...
Et des clients à garder.
Et a fortiori, en Europe occidentale, c'est effectivement un des éléments où ce sont des supplétifs, des partenaires, des alliés de la stratégie nationale de sécurité des États-Unis. Marissa Mayer, encore présidente de Yahoo, a clairement dit, si je ne respecte pas la loi américaine, c'est de la trahison. Et effectivement, d'ailleurs, il suffit de voir, puisqu'ils les rendent publics, les réunions qu'ont les dirigeants des grands groupes, notamment Google, hebdomadaires à la Maison Blanche. Alors ça se tenait sous la présidence Obama, il y a des instances dans lesquelles il siège officiellement auprès de la Maison Blanche. La question est de savoir, mais à mon avis, moi je n'en doute pas, si elles se prolongeront, ces réunions sous la présidence Trump. Et effectivement, on voit qu'il y a une osmose. Et là, ces grands groupes internationaux n'oublient pas qu'ils ont une nationalité. Et c'est vrai qu'on a souvent un discours globalisant de la société de l'information. Non, les entreprises ont une nationalité et les États dont dépendent ces nationalités savent leur rappeler la couleur de leur passeport lorsque les intérêts stratégiques sont en jeu.
Julien Nocetti, sur ces nouveaux outils américains de protection contre la cybermenace?
Alors, pour prolonger ce que disait Nicolas, il y a un partenariat public-privé qui est structurellement inscrit dans le code génétique américain en matière de cybersécurité, justement. Et les grands acteurs du numérique que citait Nicolas font partie de ce que les Américains appellent la base de défense nationale. C'est-à-dire qu'ils sont tenus légalement, de coopérer avec les instances fédérales. Donc il y a une coopération qui est vraiment génétiquement inscrite dans les codes justement américains.
Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non,
pas forcément. Très bien. Le premier pays qui a eu à faire face à une cyberattaque, c'est l'Estonie. Retour quasiment 10 ans en arrière, 2007.
C'était très déroutant ce qui s'est passé les jours précédents. Nous n'avons pas compris ce qui arrivait. L'attaque était d'une ampleur qu'on n'aurait jamais imaginée.
Il n'y avait plus d'informations, les écrans étaient noirs. Quand j'ai cherché à comprendre ce qui se passait, j'ai découvert que ce n'était pas seulement les organismes de presse, mais aussi les grandes banques commerciales qui subissaient cette attaque. Pour un petit pays comme le nôtre, qui n'a que deux grandes banques, voir que tous les services en ligne étaient interrompus a été un sujet d'inquiétude majeure. Quand nous avons compris l'échelle des attaques, quand nous avons vu la réaction des gens, l'inquiétude, les gros titres dans les journaux, nous avons compris que le but était de déstabiliser la société tout entière.
Alors, on entendait Ila Arled, le directeur du Centre de sécurité Internet, et Jaak Aaviksoo, le ministre de la Défense à l'époque. L'Estonie, plusieurs questions. D'abord, quelles étaient les motivations de cette attaque à l'époque ? Quelles furent les mesures qui ont été prises aussi par l'Estonie ? Et de façon plus générale, il y a une question sur la cybermenace en général et les relations internationales. On voit très bien que la cybermenace, elle permet à des pays réputés plus faibles, prenons l'exemple de la Russie face aux États-Unis, réputée plus faible, de prendre le pas, de déstabiliser en tout cas des États réputés plus forts. Donc la grande question qui se pose, et vous allez me parler de l'Estonie quand même, c'est en quoi cette évolution, cette émergence des cybermenaces modifie ou pas, enfin en tout cas dans quelle mesure, les rapports de force, les relations internationales, dans, en tout cas comme on les connaissait jusqu'ici. Nicolas Arpagion.
Alors dans le rappelons juste pour l'histoire, 2007, il s'avère que dans une statue qui célèbre, alors entre guillemets, la libération de l'Estonie par l'Union soviétique, en fait cette statue qui est au cœur de la capitale, il est envisagé, les autorités veulent la déplacer à l'extérieur de la ville dans un cimetière militaire. Il ne s'agit pas de la détruire, il ne s'agit pas de la remettre en cause, c'est juste de considérer qu'on peut analyser différemment, à l'aune de 2007, ce qu'était la libération de l'Estonie par l'Union soviétique, et il s'est avéré être une occupation. Et donc, il y a ce choix qui est fait, et manifestement, donc on est, et c'est là où la riposte numérique semble proportionnée, c'est-à-dire qu'on est bien dans l'image, on est bien dans la sémantique, on est dans la politique, on est dans justement presque la communication, et donc il y a ce que les Russes présentent à l'origine comme étant des patriotes qui trouvent que c'est une mauvaise manière que l'on fait à l'histoire, que l'on fait au peuple soviétique et russe. Et donc, il y a cette protestation qui se met en place et effectivement qui est cette paralysie des principales instances. Alors, elle est d'autant plus visible que l'Estonie a fait le choix d'un virage technologique qui fait que la société estonienne est autrement très numérisée. Et donc, évidemment, elle augmente d'autant son exposition au risque numérique. Voilà, ça, c'est le contexte de, effectivement, et c'est d'autant
des plus... mesures importantes ont été prises par l'Estonie depuis.
Alors, après, oui,
elle a tiré les leçons.
Et en plus, elle a hérité d'un centre de recherche de l'OTAN sur les questions, sur les travaux, qui est un centre de doctrine.
Ce qui n'est pas un hasard, les deux sont liés, en réalité.
Voilà, après, c'est un centre de doctrine, c'est pas un centre opérationnel, c'est pas un centre de riposte militaire, c'est juste un lieu où on commence à réfléchir, où on réfléchit dans le cadre de l'OTAN aux attaques numériques.
D'ailleurs, l'OTAN a codifié, enfin, a commencé une ébauche de la cyberguerre, de codification de la cyberguerre, en appelant ce texte le manuel de Tallinn. Donc, c'est pas un hasard. L'Estonie est en pointe, justement, dans ce rapport à la cyberguerre et aux attaques.
Et sur ma question très générale, je l'admets, mais sur ce que change la cybersécurité, la cybermenace dans les relations internationales en général, le fait que des petits pays puissent comme ça déstabiliser des grands pays réputés forts.
Bah surtout qu'on est dans la non-imputabilité, c'est-à-dire qu'en droit international, vous franchissez une frontière, alors même si il s'avère on a eu des cas où vous avez des soldats d'armée régulière qui enlevaient les écussons de leurs uniformes, mais bon, il s'avère que la nature de leurs équipements, la langue éventuellement, enfin quand même certains éléments, conduisaient à identifier peut-être, à attribuer des origines. Là, on est dans un domaine de l'indicible. Et c'est vrai que les États, et c'est ma conviction, semblent tout à fait s'épanouir dans cet univers-là, dans un monde où on peut voir maintenant la responsabilité d'un chef militaire mis en cause à la Cour pénale internationale, à la haie des années après. En fait, moi j'ai l'impression qu'elles s'épanouissent assez bien dans cet univers où on peut attaquer des alliés ponctuels, des alliés économiques, diplomatiques, mais conduire des attaques très ciblées et dans un endroit où la responsabilité, et avec tout le jeu de conséquences juridiques ou diplomatiques, ne va pas jusqu'à justement porter sur celle qui conduit, qui donne les coups.
China Nocetti, avant de parler de la Chine.
Non, sur cette asymétrie entre petits États et grands États, on pense instinctivement à l'attaque qui avait été coordonnée entre Israël, petit pays par la taille et les États-Unis pour justement paralyser les capacités nucléaires de l'Iran en 2010-2011. Mm-hmm. Donc ça, c'est tout à fait notable, et Israël justement a développé des capacités cyber absolument en pointe.
Parlons de la Chine. Septembre dernier, une société chinoise spécialisée dans la sécurité informatique est parvenue à prendre le contrôle à distance d'une voiture de la marque américaine Tesla.
Dans les années à venir, un grand nombre de voitures connectées vont apparaître sur les routes. Y aura-t-il des informations sur les questions de sécurité liées à la connexion à Internet? Grâce aux recherches du Ken Security Lab, nous allons vous montrer ce que nous avons appris et vous en faire la démonstration. Bonjour Nai, quel genre de démonstration vas-tu nous faire partager aujourd'hui?
Depuis plusieurs mois, notre équipe a réalisé une télécommande pour permettre de contrôler les Tesla.
Magnifique, regardons cela. Vous remarquerez qu'il n'y a personne à l'intérieur de la voiture. Notre équipe de recherche est loin là-bas et avec leur télécommande, ils vont ouvrir le toit, mettre en route les clignotants et faire bouger le siège conducteur et même faire ouvrir le coffre.
Nous pouvons aussi prendre le contrôle de la caméra de recul.
Voilà, donc cette équipe a diffusé la vidéo de ses prouesses sur Internet. Grâce à un ordinateur portable, ils parviennent à déverrouiller la voiture, à ouvrir le toit, à contrôler le tableau de bord, à changer la position du siège conducteur, ce qui peut être très dangereux, à activer les essuie-glaces, à rentrer les rétroviseurs, à ouvrir le coffre. Pendant que la voiture roule, cette société Tesla d'Elon Musk a rapidement réagi en corrigeant cette faille de sécurité. On va retrouver un nouvel invité, c'est Frédéric Douzet. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et titulaire de la chaire Castec de cyberstratégie. Cette action de hacking a ceci de très particulier qu'elle a été parfaitement orchestrée, revendiquée, exposée au grand jour. C'est donc la partie volontairement visible du hacking chinois qu'on voit là. Qu'est-ce que cette affaire, une fois encore, extrêmement médiatisée, nous dit de ce que la Chine précisément réalise de façon moins visible, Frédéric Douzet?
Je pense que ça nous dit d'abord et surtout que la Chine a l'ambition d'être une grande puissance du cyberespace. Elle est une grande puissance du cyberespace avec plus de 700 millions d'utilisateurs. Elle a des problèmes de cybersécurité également dont elle se préoccupe. Et elle ambitionne aussi et surtout de devenir une grande puissance d'innovation et pas simplement la grande usine du monde. Donc là, il y a clairement une démonstration de capacité technique qui envoie un certain message au reste du monde.
Mais dans quel domaine est-ce qu'on veut déployer justement ? C'est quoi le terrain ? Regardez par exemple, depuis quelques jours, on voit que la justice américaine a lancé une grande procédure à l'encontre de 3 ressortissants chinois qui sont accusés d'avoir piraté plusieurs grands cabinets d'avocats travaillant sur des opérations de fusion-acquisition. Donc ces hackers, ils effectuaient des ordres boursiers dont ils ont tiré plusieurs millions de bénéfices, je crois à peu près 4 millions de dollars, grâce aux informations qu'ils avaient préalablement volées concernant ces opérations. Est-ce que cette affaire, elle nous révèle par exemple que les attaques provenant de la Chine, à destination en l'occurrence des États-Unis, sont majoritairement, voire peut-être même exclusivement, des attaques d'ordre économique? Est-ce que, par exemple, on pourrait voir Pékin réaliser des opérations, comme on l'a vu avec Moscou à l'égard de Washington, sur l'élection, en essayant de peser comme ça sur l'élection présidentielle? Frédéric Douzet.
Alors, d'une part, non, les attaques ne sont pas exclusivement économiques, même si elles sont probablement, pour une très grande majorité, à but économique. Mais on a des attaques qui, très clairement, visent à recueillir du renseignement stratégique, du renseignement technologique. Donc, la partie qui a pour but un profit économique direct, elle n'est pas négligeable, d'autant que les attaques à visée de collecter des informations technologiques, des vols de propriété intellectuelle peuvent avoir derrière des développements industriels qui vont aider à la puissance économique de la Chine. Mais très clairement, on a aussi des attaques à visée stratégique, notamment les Chinois sont soupçonnés d'être derrière l'attaque contre l'Office of Personnel Management qui a constitué dans le vol de plus de 20 millions de dossiers personnels, de personnel du gouvernement qui, pour la plupart avaient des accréditations spéciales, donc qui avaient eu ce qu'on appelle des background checks avec beaucoup d'informations personnelles au-delà de leur nom, leur date de naissance et leur numéro de sécurité sociale. Et donc, même si on n'a pas d'informations très claires sur les motivations derrière cette attaque, ça donne accès à des informations qui peuvent s'avérer très précieuses sur tous les gens qui ont travaillé, travaillent ou sont susceptibles de travailler pour le gouvernement américain et qui étaient dans cette base de données.
Et ça veut dire qu'on a donc une vraie cyberstratégie élaborée avec des moyens matériels, des moyens humains, peut-être des unités militaires dédiées, un peu à l'instar de ce qu'on voit avec la Russie.
En fait, la galaxie des hackers est assez vaste aux États-Unis, en Chine, pardon, et c'est ce qui a compliqué les relations avec les États-Unis. Et on est vraiment dans une dynamique de bras de fer qui s'inscrit sur fond aussi de montée en puissance de la Chine et de déstabilisation quelque part des milieux stratégiques américains face à cette montée en puissance de la Chine qui les renvoie aussi à leurs propres faiblesses dans certains domaines. Et on le voit depuis 2010, que les accusations contre les opérations de la Chine prennent de l'ampleur. Il y a eu des tentatives de discussion qui ont été difficiles. Puis le gouvernement américain est rentré dans une logique de publicité sur ces attaques et d'accusations directes envers le gouvernement chinois à partir de 2013. Jusque-là, c'était des accusations indirectes et puis on rentre dans cette accusation et le bras de fer donc a continué à se durcir puisqu'en mai 2014, on a eu la mise en examen de 5 officiers de l'armée chinoise. Et cette stratégie, d'après les autorités américaines, a fini par payer puisque le conflit s'est beaucoup durci. Dans un premier temps, on a eu un blocage de discussion sur les questions cyber. Et puis, l'occasion de la visite du président Xi Jinping aux États-Unis, les autorités américaines ont encore durci le ton en menaçant, cette fois derrière la mise en examen, de procéder à des sanctions sur les entreprises qui ont bénéficié du hacking chinois pour forcer, en fait, la main du gouvernement pour arriver à mettre un petit peu de l'ordre dans les pratiques de hacking.
Vous avez raison, en tout cas, Frédéric Douzet, de rappeler que, parce que si aujourd'hui Washington pointe du doigt les actions de piraterie venant de la Russie, depuis des années, c'est la Chine qui est désignée comme principale cybermenace. Écoutez ce que disait justement le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, c'était en 2014.
Nous n'avons jamais commandité ou participé à ce soi-disant cyber-cambriolage de secrets commerciaux. Ce sont les États-Unis qui ont commandité cet espionnage informatique et qui ont mis sur écoute des individus, des entreprises et des institutions de nombreux pays à travers le monde. Et la Chine est victime de ça. Les États-Unis ont délibérément fabriqué ces soi-disant faits. Le gouvernement américain a sévèrement bafoué les normes de gouvernance des relations internationales et mis en danger la confiance mutuelle entre nos deux pays. Nous avons déjà exprimé notre opposition ferme et notre mécontentement et nous avons demandé aux États-Unis de corriger leurs erreurs et de retirer ces inculpations.
Voilà, les États-Unis accusent, la Chine rejette. C'est vrai qu'il y a de nombreux rapports, vous le rappeliez tout à l'heure, Frédéric Douzet, rapports américains sur ce sujet. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi de la part des États-Unis une forme d'exacerbation de la menace chinoise ces dernières années? Est-ce qu'on n'a pas beaucoup pointé du doigt Pékin sur ses cyber-agissements et s'il y a eu une forme, disons, d'instrumentalisation, je le lâche le mot, à quelle fin? Pour quelle raison?
Je pense que ça participe, comme je le disais au début, plus généralement des inquiétudes liées à la montée en puissance de la Chine, qui est une montée en puissance économique, mais aussi militaire, et avec la Chine qui veut s'affirmer dans un premier temps comme une puissance régionale, mais aussi comme une puissance internationale susceptible de contrebalancer la puissance américaine. Donc cette question-là, la cristallisation sur les cyberattaques, participe de cette problématique qui est beaucoup plus large du positionnement stratégique des États-Unis vis-à-vis de la Chine. cela dit, on a vu qu'au fil des années, il y a quand même eu des efforts de dialogue assez énormes. Et finalement, en septembre 2015, les États-Unis ont abouti à un pacte cyber avec la Chine, donc une sorte d'entente entre les deux pays, avec des engagements de bonne conduite sur la coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, dans la volonté aussi de ne pas soutenir sciemment de la part du gouvernement le vol de propriété intellectuelle et les cyberattaques, et puis la volonté de créer des mécanismes bilatéraux pour discuter des normes de comportement responsable des États dans le cyberespace et d'avoir de la même de la façon dont on applique le droit international dans le cyberespace. Et ça, je crois que c'est très important parce que les deux pays ont, quelle que soit leur rivalité et les pratiques d'espionnage et de vol de données qu'il peut y avoir par ailleurs, de réelles inquiétudes quant au risque d'escalade des conflits qui pourraient être provoqués par une mauvaise interprétation, un mauvais calcul dans le cadre de cyberattaques.
Mais Julien Nocetti, sur ce pacte cyber, sur cette question de qu'est-ce que j'ai dit, Julien Nocetti? Voilà, Julien Nocetti. Sur cette montée en puissance ici de la cyberdiplomatie en général, est-ce qu'on voit que avec cette montée de la menace, les diplomates et en particulier les occidentaux se mobilisent pour mener des négociations internationales sur le terrain? Très concrètement, est-ce qu'il y a eu des avancées en la matière, des avancées importantes? Est-ce que des règles ont été définies? Est-ce qu'elles sont respectées, Julien Nocetti?
Alors, la principale difficulté est que la plupart des pays dont on parle, États-Unis, Chine, Russie, Européens, ont une approche différente de ce que recouvre l'Internet et le cyberespace. Donc il y a des discussions extrêmement intenses depuis de nombreuses années sur la terminologie, sur ce que recouvre le cyberespace, la cybersécurité, les cyberattaques, les concepts dont on parlait tout à l'heure, l'escalade, etc. Et ça occupe beaucoup les diplomates, les agences de renseignement. Et c'est extrêmement extrêmement complexe et sensible, d'autant que l'échelon supérieur, le politique, appréhende encore, à mon sens, assez mal tout ce domaine et tous les enjeux liés à ça. Donc une cyberdiplomatie, oui, mais qui est encore embryonnaire et pas encore tout à fait à la hauteur des enjeux, notamment en Europe.
Il y a quand même des avancées, Nicolas Arpajon. L'un des objectifs affichés, c'est difficile, c'est lundi, hein, j'ai un peu du mal, on va s'y mettre, c'est sécuriser les fameux annuaires d'adresses dont dépend le fonctionnement d'Internet, les fameux, ce qu'on appelle les registrars en anglais. Aujourd'hui, c'est l'ICANN, qui est l'organisme qui relie les adresses IP à des noms de domaine et qui manage la forme, disons, de ces noms de domaine. Aujourd'hui, l'ICANN est assez largement contrôlé par les États-Unis, même si récemment, il y a eu quand même justement certaines réformes qui visaient à élargir un peu tout ça, les pouvoirs à d'autres pays, mais aussi à des acteurs privés. Jusqu'ici, jusqu'au 1er octobre 2016, je crois que c'était en dernière instance le département du commerce des États-Unis, puisqu'il s'agissait d'une entreprise de droit californien qui primait. Depuis, on a des acteurs privés, on a des utilisateurs, on a des représentants de gouvernements étrangers qui ont intégré cette ICANN. Depuis très récemment, c'est le 1er octobre 2016. C'est une avancée importante. La tutelle américaine a été brisée, là, d'une certaine manière, Nicolas Arpajon.
Elle a été relativisée. Pourtant, ça a mis énormément de temps et les solutions alternatives, puisque, effectivement, le problème, c'est que quels sont les pays les plus organisés pour éventuellement proposer une solution alternative? Ça reste la Russie et la Chine qui conduisent un attelage qu'ils proposent comme effectivement alternative. Et les Européens sont assez en retrait. Et gardez à l'esprit que les Européens sont en plus divisés. C'est-à-dire que les Européens ne présentent pas un front uni dans le domaine cyber, puisqu'au contraire, chacun a investi. L'Allemagne a créé son agence, la BSI, le Bundessicherheitsinformationsdienst. La France a créé son ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, etc., etc. Même pour la lutte contre la criminalité numérique, au sein d'Europol a été créée une entité, le EC3, le European Cybercrime Center, basé à La Haye, mais qui n'est qu'un lieu de coordination. On n'est pas du tout dans un FBI à l'européenne. On est au contraire dans la motivation de chaque État de conserver la main, tant en défense qu'en attaque, de manière à pouvoir avoir des éléments de négociation, de discussion et d'échange. On est beaucoup dans du bilatéral, en fonction des intérêts stratégiques ponctuels. On est peu. L'Europe ne présente pas un front uni et cohérent. Manifestement, les États ne souhaitent pas jouer la seule identité européenne sur cette scène numérique.
Julien Nocetti, sur cette question de l'ICANN, des avancées en la matière?
Alors effectivement, depuis octobre dernier, il y a eu un... un changement de tutelle donc du département du commerce américain en dernier recours vers ce que on a coutume d'appeler la communauté. Ça c'est le langage souvent assez abscons de l'ICANN dans la matière. Mais ça ne va pas forcément changer la donne en matière de gouvernance de l'Internet, de gouvernance du réseau, puisque les ressources se situent là, très largement encore aujourd'hui en Californie, et que les membres du board de l'ICANN, du conseil d'administration de l'ICANN, restent très largement soit américains ou anglo-saxons, ou éduqués à l'anglo-saxonne. Donc il y a aussi une sorte de formatage culturel et linguistique qui joue largement encore en faveur des États-Unis. Donc ça ne va pas provoquer de rupture fondamentale.
Tout dernier point sur lequel je voudrais vous entendre l'un et l'autre, si vous le voulez bien, c'est l'Allemagne. Il y avait eu, on s'en souvient, en 2015, des attaques numériques avec des documents qui avaient été volés, disons-le, sur les serveurs du Parlement. Tout ça avait été diffusé via le site WikiLeaks. On a là des élections maintenant très prochainement, l'automne prochain. Angela Merkel a dit son inquiétude s'agissant justement de ces possibles attaques. Est-ce que l'Allemagne sera la prochaine cible, en l'occurrence, pourquoi pas de Moscou ? C'est une hypothèse, je n'affirme rien, mais est-ce que c'est une possibilité, Julien Nocetti ?
Alors l'Allemagne a essuyé de cyberattaques assez nombreuses depuis 2-3 ans. Vous mentionniez le Bundestag, le Parlement, mais aussi la Chancellerie et de grands acteurs économiques allemands. Donc l'Allemagne est une cible privilégiée en Europe, au même titre que la France. Donc les deux principale puissance sur le continent européen. Il y a une prise de parole publique au plus haut niveau en Allemagne qui frappe, notamment par contraste avec la France, où la prise de parole la plus récente est celle de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui remonte au week-end dernier. Mais il y a une vraie asymétrie entre la prise de conscience des dirigeants français et allemands vis-à-vis de ces cybermenaces, très clairement.
Asymétrie aussi, Nicolas.
Alors, l'Allemagne, effectivement, d'ailleurs, nous, on peut se rappeler en tant que Français que d'ailleurs, on s'est aperçu, grâce à un certain nombre de révélations, que d'ailleurs, l'Allemagne servait de passerelle d'espionnage à l'encontre de la France à la demande des Américains. Donc, on voit que même dans la relation franco-allemande, qui est censée être une relation intime, permanente, continue, ancienne et vraiment amicale, effectivement, nous avons appris avec tristesse que, effectivement, les Allemands, ponctuellement, nous écoutaient au profit de l'administration américaine. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sera sur l'agenda du nouveau président français et certainement au menu de la campagne électorale allemande.
Et bien voilà, un des points sur lesquels il faudra probablement revenir d'ici la campagne. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été nos invités. Frédéric Douzet qui était avec nous par téléphone. Un grand merci à vous, Julien Nocetti et Nicolas Arpagian. Je rappellerai que sais-je, la cybersécurité au PUF pour Nicolas Arpagian, mais aussi la cyberguerre, c'était chez Weber. On mettra bien sûr tout ça sur le site internet de France Culture, sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce matin pour ouvrir cette série sur la piraterie qu'on va prolonger dès demain. All your PIAs are done to help protect your PHI and PII. We'll try to make your life easy, but not as easy as pie. Security and privacy go hand in hand. We work together, but we need all you to give us a hand. So we can all stand proud and take a stand. Yeah. CC Security, see we got your back. We know what to do, that's why we're here. Protect all of you, all you hackers out there. Beware, beware, be very scared. Ah oui, c'est évidemment une musique en lien avec le sujet dont on traitait tout de suite. Place, il est presque 11h53 minutes, place à notre tour du monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Brice n'est pas si éloigné du sujet qu'on évoquait maintenant, puisqu'on va parler de l'ère de la post-vérité cette semaine, Brice.
Oui.
Alors vous avez récolté pour nous ce matin quelques nouvelles et des nouvelles troublantes.
Un sapin de Noël se demande ce qu'il a bien pu faire pour finir dans une poubelle. Ou encore, devant l'incapacité des instituts de sondage à prévoir quoi que ce soit, le ministre de l'Intérieur a décidé de convertir leurs locaux en centre d'accueil des migrants. J'aime également beaucoup celle-ci, sortie quelques jours avant les élections présidentielles aux États-Unis. Le parti républicain envisage de remplacer Donald Trump par un clown tueur. Depuis peu, depuis déjà un peu ancien, celle-ci, Michel Field reconnaît une maladresse après avoir uriné sur une motion de défiance des salariés de France Télévisions. Beaucoup plus récent, celle-là, Pour lutter contre l'automatisation des emplois dans l'industrie, Donald Trump envisage de déporter massivement les robots au Mexique. Alors, vous l'avez deviné, ces quelques perles ont été pêchées sur des sites satiriques, en l'occurrence le Gorafi français et son équivalent britannique New Thump. Nous avons pris l'habitude de ces parodies d'informations. Elles adoptent la forme d'un communiqué, d'une brève, mais leur énormité les fait reconnaître immédiatement pour des impostures. Personne ne peut les prendre au sérieux. Personne, vraiment ? Je me souviens qu'un des rédacteurs du tabloïd américain Weekly World News confiait dans une interview « Nous savons qu'un certain pourcentage de nos lecteurs prennent nos délires hebdomadaires pour des faits avérés ». Il faut dire que ce titre, disparu aujourd'hui, utilisait des montages photographiques comme dans le cas de ce B-52 disparu pendant la guerre du Vietnam et qu'un astronome était censé avoir repéré et photographié sur un cratère lunaire. Il y a une sorte d'erreur stupide que seuls commettent les gens intelligents, écrit cette semaine dans The New Statement, Laurie Penny. C'est la conviction qu'il suffirait d'établir sobrement les faits pour l'emporter dans un affrontement avec un mensonge facile et réconfortant. Dans le cas d'une campagne électorale telle que celle que nous vivons en France, en donnant par exemple sobrement les chiffres, par exemple le coefficient de Gini mesurant les écarts de revenus et son évolution au cours du temps. Mais nous sommes entrés, écrit Laurie Penny, dans une nouvelle époque du débat politique, une époque que nombre d'experts ont sous-titrée « l'âge de la post-vérité ». Moi, je préfère la penser comme l'âge des foutaises, « the age of bullshit », écrit-elle.
Alors c'est vrai que depuis la victoire du Brexit, depuis l'élection de Donald Trump, il y a deux résultats électoraux qui ont surpris les experts, c'est vrai. On a cette expression « post-truth », « post-vérité » qui a fait une entrée fracassante dans le vocabulaire journalistique. Et pourtant, le fait que des victoires électorales aient été obtenues grâce à des mensonges ou à des promesses intenables, c'est pas vraiment une nouveauté. On a des exemples sous les yeux. Alors pourquoi parler de post-vérité plutôt que de boniment, plutôt que de mystification, Brice ?
Eh bien, Florian, il y a 12 ans, paraissait un livre intitulé en anglais « L'ère de la post-vérité, malhonnêteté et tromperie dans la vie contemporaine ». Son auteur, l'essayiste américain Ralph Case, est un spécialiste de l'analyse sociale du langage, un traqueur d'euphémisme et d'expression toute faite. Il résumait ainsi le propos de son livre. Autrefois, nous avions la vérité et les mensonges. À présent, nous avons la vérité, des mensonges et des énoncés qui peuvent ne pas être vrais, mais que nous considérons trop inoffensifs pour les appeler faux. L'euphémisme foisonne. Nous économisons la vérité. Nous proférons des vérités améliorées. Le terme « to deceive », tromper délibérément, fait place à tout spin, manipuler, faire de la com. Nous ne voulons pas accuser les autres de mentir, alors nous disons qu'ils sont dans le déni ou que la vérité leur est temporairement inaccessible. Case écrivait aussi « dans la post-vérité, les frontières entre la vérité et le mensonge, entre l'honnêteté et la malhonnêteté, la fiction et la non-fiction se brouillent ». Il avait repéré l'usage de cette rhétorique nouvelle dans bien des domaines, celui bien sûr des spin doctors, chargés par les dirigeants de leur fournir de belles histoires afin d'amuser le public, tandis qu'ils sont censés s'occuper, eux, des affaires sérieuses. Celui des universitaires postmodernistes, acharnés à déconstruire la croyance naïve en la possibilité de parvenir à une quelconque vérité. Celui des nouveaux psychothérapeutes, encourageant leurs patients à se mentir à eux-mêmes en construisant un récit de leur vie positif et valorisant. Tout le monde a pris l'habitude de mentir à tout le monde, constatait-il. Et le résultat, c'est que nous sommes entrés dans une société de méfiance. Car, je cite Keyes, « lorsque tant d'entre nous colportent des fantaisies présentées comme des faits, la société perd ses assises ». Bien des analystes font à présent le même constat que lui. Nos sociétés libérales, où les instances d'autorité et de contrôle ont été strictement cantonnées, reposent sur le crédit que nous pouvons nous accorder réciproquement. Si nous avons l'impression qu'un grand nombre de participants au jeu social trichent, qu'ils diffusent des fausses informations afin d'améliorer leur situation personnelle, eh bien, nous adopterons nos propres comportements. En conséquence, personne ne veut être le dindon de la farce sociale. Une étude publiée l'an dernier par l'agence de relations publiques américaine Edelman relève que les démocraties sont confrontées à une crise inédite de la confiance envers les élites et les médias traditionnels. Et cela se traduit électoralement par une poussée de populisme.
Et voilà, un défi, un nouveau défi pour nous, journalistes, pour les responsables politiques, l'ère de la post-vérité. On poursuivra bien sûr ces aventures, ces pérégrinations demain. Brice, on peut retrouver bien sûr vos chroniques sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, sur la page du Monde des Idées. Brice, merci beaucoup.